colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Je précise tout de suite qu'il ne sera pas question ni d'aviation ni d'électronique. Les études d'histoire militaire consacrées à l'Antiquité progressent avec une sage lenteur. Et si les universitaires ont fini par admettre leur utilité, ils n'ont pas encore abordé les rivages du combat proprement dit, ou ils ne l'ont fait que de très loin. C'est pourquoi l'exposé que j'ai l'honneur de vous présenter est très largement neuf. Pour ne pas perdre trop de temps, j'ai limité mon propos au Principat, c'est-à-dire au 1er et 2e siècle de notre ère, et j'ai laissé de côté plusieurs aspects, l'armement défensif, l'artillerie, les navires et les instruments de polyorceptique dont on vient de parler d'ailleurs avec beaucoup de talent. Et après tout, ce que j'aurais pu dire sur l'époque romaine se trouvait déjà pratiquement tout dans l'Antiquité du Proche-Orient. L'armement offensif des Romains, qui est donc le sujet que je vais aborder aujourd'hui, comprenait de nombreux engins qui peuvent être classés en deux catégories majeures, les armes de jet et les armes de choc. Au premier rang des armes de jet venaient les pierres lancées à la main. Si elles n'étaient pas toujours létales, elles pouvaient l'être, et de toute façon, si le but était atteint, la victime était au moins blessée, assommée, secouée par le choc. J'insiste là-dessus parce qu'il y a une dame qui récemment a écrit que, comme je défends l'existence de ces armes, je suis un crétin. Elle a dit aussi que je ne connais pas le latin, mais ça c'est un autre problème. Et cette dame aurait dû lire l'Iliade et elle aurait vu que les héros d'Homère avaient souvent recours aux pierres. Les soldats pouvaient aussi utiliser des frondes pour lancer des pierres ou des balles. Dans la guerre des Gaules, un légat de César reçut en plein visage un projectile de ce type qui le mit hors de combat. Les glands de fronde portaient souvent quelques mots, par exemple le nom du commandant d'armée, Pompée, César, etc., ou des textes injurieux pour l'ennemi. Dans la guerre civile qui a opposé en Italie Octave et Antoine, les hommes d'Antoine, qui était un homme assez brutal, assez rustique, avaient envoyé à Octave un texte salé, je vous le lis en latin d'abord, Octavium culum peto, et je vous traduis, « Je cherche le cul d'Octave ». Autre exemple, les Romains qui assiégeaient Athènes pendant la guerre de Sylla avaient demandé aux habitants mâles de cette cité de parer leurs épouses car ils arrivaient avec l'intention de s'occuper de ces dames. Les flèches constituaient une autre sorte d'arme mortelle, surtout si elles étaient enduites de poison. Les Romains avaient ainsi inventé l'ancêtre de la guerre chimique. La plus connue des armes était le javelot, des armes de jet était le javelot, le célèbre pilum, qui d'ailleurs à l'occasion pouvait devenir arme de haste. Il était fait de deux parties, un manche en bois d'environ 90 cm et une pointe très fine, à peu près de même longueur. Une cheville de bois reliait ces deux éléments. Quand le pilum touchait un obstacle quelconque, le corps d'un homme ou le sol, le fer se pliait, la cheville éclatait, et cela rendait impossible le retour à l'expéditeur, pratique recherchée par tous les combattants de l'Antiquité. Les mêmes hommes utilisaient, suivant les circonstances, aussi bien les armes de jet que les armes de haste. Ces dernières étaient également assez nombreuses. Si la hache était peu répandue chez les Romains, la massue l'était davantage. Certains soldats utilisaient la lance, tenue à une ou deux mains. Comme nous l'avons dit, ils pouvaient donner ce genre d'utilisation au pilum, par exemple s'ils n'avaient pas eu le temps de le lancer avant le corps à corps. Mais l'arme par excellence du légionnaire romain, c'était le glaive, le célèbre gladius, une sorte d'épée assez courte, d'environ 95 cm, pour la lame uniquement, qui permettait de frapper de taille et d'estoc et qui faisait des blessures terribles. Les premiers phalangites macédoniens, les soldats de Philippe et d'Alexandre le Grand, qui ont affronté des Romains, en ont été effrayés. Le gladius permettait presque d'arracher un bras. Le bouclier, qui est souvent rangé dans la rubrique des armes défensives, servait aussi d'arme offensive, car il permettait également de porter des coups à l'ennemi, et nous le verrons tout à l'heure dans certains des documents qui vous seront présentés. Une demi-sphère de métal était placée en son centre afin de heurter l'adversaire avant de l'affronter à l'épée. Une petite bande de fer était placée au sommet de l'objet pour le frapper sous le menton, suivant l'opportunité qui se présentait. Quelques textes permettent de voir comment les soldats romains utilisaient leurs armes. Mais ils sont peu nombreux et peu explicites parce que les auteurs anciens évitaient de donner des informations qui pouvaient présenter un caractère trivial. Les renseignements les plus intéressants sont fournis par des sculptures et ils sont répartis en deux groupes. D'une part, des défunts ont été représentés sur des sépultures, où ils sont figurés parfois en civil, parfois en militaire avec leur armement. Et nous en verrons tout à l'heure. D'autre part, deux monuments plus importants retiendront l'attention, mais je ne prétends pas à l'exhaustivité. Donc, l'empereur Domitien, 81-96, ayant été attaqué par les Daces, peuple de la Roumanie actuelle, a finalement préféré acheter la paix. Comme il ne pouvait pas reconnaître sa défaite, il a proclamé sa victoire par la construction de deux monuments installés dans la Dobroudja à Adam Clissy, séparés de quelques centaines de mètres l'un de l'autre. L'empereur Trajan, qui a succédé, presque succédé à Domitien, l'intermède de 18 mois de Nerva entre les deux, donc Trajan 98-117, s'est dit qu'il fallait venger l'affront subi par l'Empire au temps de Domitien, et il a fait deux guerres pour venir à bout de ce petit peuple. C'est un petit peu comme si la France envahissait Monaco, hein, ou un tout petit État comme ça. Alors, comme Trajan était un grand communicant plus qu'un grand militaire, la preuve c'est qu'après, contre l'Iran, il a subi une défaite écrasante, il célébra sa victoire par deux monuments. Deux d'entre eux présentent un intérêt majeur pour notre propos. Il s'agit d'un trophée installé à Adam Clissy. Première image, s'il vous plaît, donc le voilà, qui est décoré de 54 métopes. Alors, vous avez en bas un tambour qui est constitué de terre avec un parement de pierre, une petite colonne à six façades, et en haut le trophée proprement dit, qui est un mannequin représentant un homme, les bras en croix, recouvert d'armes prises aux ennemis tués. Et au pied de ce monument, il y a un amas d'armes également ramassées sur le champ de bataille et prises à des ennemis tués. Et ce trophée, c'est un monument religieux, c'est une offrande à trois divinités, Mars qui protège les armes, Vénus, que vous connaissez comme la déesse des galipettes, mais qui est en réalité surtout la déesse qui donne la victoire, qui est importante ici, et puis la fortune, qui est la bonne ou la mauvaise fortune, et dans le cas de Trajan, c'était la bonne fortune, donc on la remercie par ce type de monument. Et vous voyez au sommet du tambour, vous avez en fait 54 métopes, c'est-à-dire des scènes de combat que nous allons voir quelques-unes tout à l'heure. D'autre part, il y a la colonne Trajane qui a été installée à Rome sur le forum construit par cet empereur, et qui raconte en images les deux guerres qu'il a menées contre les Daces. On l'a comparé à une bande dessinée et aussi à un film. Je n'ai pas donné de photo parce que ça n'est pas utile pour notre propos. Ces sculptures, jadis décrites sans esprit critique, doivent pourtant être critiquées, comme l'a montré récemment Simon James. L'artiste cherchait à embellir la réalité. C'est ainsi que, dans ces sculptures, les Romains ne meurent jamais au combat. En outre, il n'est pas possible de représenter sur un petit espace une armée de 100 000 hommes ou des villes. Dans ce cas, 5 ou 10 soldats représentent l'ensemble de l'armée et 2 ou 3 maisons font une agglomération. Et puis, ce qui est plus gênant pour mon propos, les armes étaient parfois fabriquées en bois ou en métal, voire peintes et ajoutées à la pierre. Évidemment, 2000 ans après, elles ont disparu. Nul n'ignore que tous les soldats poursuivaient deux buts. Je crois que c'est la même chose de nos jours, tuer et éviter d'être tué. Dans ce cas, ces conditions, ils ne recherchaient pas la beauté du geste et leur principale règle était l'efficacité. Ce souci ne les empêchait pas de respecter des principes, par exemple l'honos, la fides. L'honos, c'est l'honneur et la fides, c'est ce qui est convenable à la guerre ou ailleurs. Et si leur morale n'était pas toujours semblable à la nôtre, elle n'était pas inférieure à celle qui est pratiquée de nos jours dans les milieux sportifs. Les légionnaires, par lesquels nous commencerons, sont les mieux connus. Ils pratiquaient donc une escrime qui leur était propre, très différente de celle qui est mise en œuvre par les sportifs actuels. Elle faisait partie de l'exercice, une formation à la fois initiale et continue. Le jeune homme qui entrait dans l'armée passait 4 mois comme tiro, un bleu, Et puis au bout de 4 mois, sans, il n'avait pas droit au ceinturon. Puis au bout de 4 mois, il avait le droit de porter un ceinturon. Il n'était plus un tiro, il devenait un miles, c'est-à-dire un soldat. Quand arrivait le combat, et suivant les circonstances, les soldats pouvaient être mis en position d'attente. Le bouclier, alors la figure 2, s'il vous plaît. Voilà, c'est un extrait de la colonne Trajane. Le bouclier devant le côté gauche, le bas légèrement vers l'avant, et le glaive presque à l'horizontale. Alors, vous voyez là, donc, les deux soldats qui sont en bas à droite, donc ils ont ce bouclier au côté gauche, légèrement vers l'avant, et on le voit surtout sur celui qui est à gauche, il tenait à la main une épée qui a disparu et que nous ne voyons plus, la pointe légèrement relevée. Quand l'ennemi était proche, le soldat pouvait se mettre en garde. Alors c'est le document numéro 3, s'il vous plaît. C'est un bas-relief célèbre de Mayence qui montre un légionnaire dans cette attitude. Alors vous voyez le casque, le bouclier. On ne voit pas la cuirasse parce que comme nous sommes en Germanie et qu'il fait froid, il a mis un manteau par-dessus. Il a des jambières, il est très bien défendu et il a seulement pour attaquer son glaive, qui est dans ce cas presque à l'horizontale. Un soldat qui se tient derrière lui a au contraire le pilum à la main. Vous voyez le javelot tout en haut à gauche dans le coin. Normalement, les légionnaires passaient à l'attaque sans attendre que l'ennemi ait pu s'organiser complètement. Le général devait choisir un terrain en pente pour leur donner de l'élan. Au dernier moment, le légionnaire lâchait son pilum, puis les légionnaires engageaient une série de duels à l'épée. Comme sur le relief de Mayence, le bouclier pouvait être mis à la verticale pour une protection de tout le corps et pour permettre un choc avec l'umbo afin de déstabiliser l'ennemi. Il arrivait aussi que le bouclier soit placé à l'horizontale ou presque, afin de frapper l'adversaire avec la tranche, de le repousser et de l'amener à se découvrir lui-même. Deux, le légionnaire pouvait recourir à plusieurs possibilités. Deux d'entre elles ont été retenues par les sculpteurs et ce sont des coups d'estoc. Premier cas, figure 4 s'il vous plaît, donc le légionnaire arrivait avec la main droite au levé vers l'arrière. Alors il est très rare qu'on ait ce genre de représentation. Vous avez à droite, tout à fait à droite, un das qui est mort déjà, qui a été tué, il a reçu un coup de glaive, et vous avez là le légionnaire qui s'avance vers un deuxième das. Et le das est reconnaissable, incontestablement. D'abord, il porte un pantalon, comme les Gaulois ou les Germains. Ensuite, il est torse nu, il n'a pas aucun armement de protection, aucun armement défensif, et il a cette espèce d'épée en forme de faux, très légèrement, dont le sommet est très légèrement incliné. Alors, le légionnaire se précipite vers lui, et puis, figure suivante, très rapidement, il le frappe avec son bouclier, ce qui déséquilibre le das, et il lui enfonce son épée entre le cou et l'épaule. Et vous voyez que, donc, si vous donnez à ce glaive 90 cm ou 95, il y en a quand même un bon morceau qui est entré dans le bonhomme. Donc, la veine jugulaire est tranchée, le poumon est atteint, éventuellement le cœur, et le soldat est dans un très mauvais état. Le das est dans un très mauvais état. Autre cas, figure suivante, s'il vous plaît, ce sont des méthodes d'Adam Clissy. Vous avez le das à droite. Ça doit se passer à un autre moment puisqu'il est couvert. Vous en avez un qui est blessé à côté, il tient son épée, mais enfin il n'est pas prêt à se battre. Et le légionnaire, lui, s'avance toujours avec son bouclier qu'il protège, le casque, la cuirasse par derrière. Et là, cette fois-ci, son épée est presque horizontale, très légèrement redressée vers l'avant. Photo suivante. Il vient d'arriver sur le das en courant, il lui a donné un bon coup avec son bouclier et en même temps il l'a fait tourner. Ce qui fait que le das est non seulement déséquilibré, mais en plus se tourne légèrement. Et à ce moment-là, le Romain lui enfonce le glaive au-dessus du bassin, un petit peu par l'arrière. Évidemment, frapper un homme dans le dos ou presque dans le dos, ça peut vous choquer, mais pour les Romains, ça n'avait rien de scandaleux. Leur mentalité différait des nôtres, ce n'étaient pas les mêmes valeurs. Enfin, il existe un troisième cas, ou plutôt une infinité de cas, qui ne sont pas représentés dans ces documents, parce que pour vaincre un ennemi, tous les coups étaient permis, ou presque. Il fallait tuer et éviter d'être tué. Hein. Ce ne sont pas les Jeux olympiques où il faut le frapper 10 fois de suite. Le légionnaire pouvait agripper le bouclier de l'ennemi s'il en avait un pour le découvrir, puis le frapper au ventre ou à la poitrine. Le célèbre coup de Jarnac, qui consistait à atteindre l'ennemi à l'arrière de la cuisse ou du genou, ou encore au mollet, était relativement répandu. Les frappes à l'épaule et à la taille, qui ont été décrites plus haut, sont préférées par les sculpteurs, sans doute parce qu'elles étaient considérées comme les plus belles. Finalement, comme je l'ai dit, seules deux règles s'imposaient aux légionnaires, tuer et survivre. Le légionnaire était accompagné par des auxiliaires quand il allait au combat. Ces soldats de second ordre intervenaient avant la bataille pour affaiblir l'ennemi par des jets de flèches, de javelots, de pierres et de glands de fronde, de pierres aussi, hein, quoi qu'en pense Madame Machin. D'autres auxiliaires étaient spécialisés dans l'emploi des massues. Ils sont représentés sur la colonne Trajane, prêts à abattre leurs armes sur des crânes ennemis. Par la suite, les auxiliaires intervenaient ou n'intervenaient pas, suivant les circonstances. Quelquefois, les légionnaires tout seuls allaient au combat. On mettait les légionnaires en arrière, les auxiliaires en avant, pour qu'ils puissent combattre. Alors là, dans ce cas-là, on épargnait le sang des Romains, et on faisait combattre les sujets, les provinciaux, voire les barbares d'ailleurs, puisque l'armée romaine a toujours utilisé des barbares. C'est chez les auxiliaires qu'on trouvait la vraie cavalerie, une arme prisée, comme en témoignent les salaires plus élevés, mais peu fournie, donc tactiquement moins importante que l'infanterie lourde. Si avant la bataille ils lançaient des javelots, ensuite, au cœur de l'action, ils utilisaient surtout des lances de haste eux aussi. En allant au combat, ils tenaient le manche presque horizontalement, la pointe légèrement relevée vers l'avant. Parfois, la charge suffisait à faire fuir l'ennemi. Sinon, ils allaient au corps à corps, ils levaient leur bras droit vers l'arrière et abaissaient aussi violemment que possible cette arme sur leur adversaire, comme faisaient les fantassins. Sur la colonne Trajane, on voit des cavaliers maures, donc du Maroc actuel, du nord du Maroc actuel et de l'est l'ouest de l'Algérie actuelle, qui avancent le bras droit levé pour frapper l'ennemi. Ils n'ont pour toute protection qu'un petit bouclier rond, une sorte de rondache. Alors un cas particulier et très intéressant est représenté par un type de scène bien attesté en Germanie, Mayence, Worms, Wiesbaden. Il s'est diffusé en Bretagne, île qui a été conquise par l'armée de Germanie, où il est représenté en de nombreux endroits, bon, je vous épargne la liste. Il s'est aussi étendu à l'Afrique numidie, à la Maurétanie césarienne, c'est-à-dire l'ouest de l'Algérie actuelle. Il s'agit de la représentation d'un cavalier sur une sépulture. Depuis sa monture, il frappe de sa lance. C'est le document suivant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, pas celui de gauche, les deux de droite. Vous voyez un cavalier qui tient une lance à la main, lance dirigée vers le sol, et sur le sol, vous avez un homme qui est étendu sur le dos. Alors, on trouve l'explication de cette scène dans deux métopes d'Adam Clissy, que je n'ai pas voulu ajouter ici pour ne pas surcharger mon propos. Le cavalier s'élance sur le fantassin, il y a un choc entre le fantassin et le cavalier tombe, et une fois qu'il est sur le dos, il y a un choc entre le cavalier et le fantassin tombe sur le dos et le cavalier l'achève avec sa lance. Alors frapper un ennemi à terre n'est pas convenable, me direz-vous, mais chez les Romains, ce n'était pas la même chose, ils n'avaient pas les mêmes valeurs que nous. Pour compléter ce panorama assurément partiel, des éléments intéressants peuvent être trouvés dans un examen du dossier fourni par la Maurétanie césarienne, petite province qui correspondait seulement au nord-ouest et au centre-nord de l'Algérie actuelle. Au fond, ça va de l'est d'Alger jusqu'à la Moulouya, jusqu'à la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Son intérêt, pour moi, tient à ce qu'elle présentait plusieurs traits originaux. Des soldats divers apparaissent dans un bel ensemble de stèles qu'elle a livrées et qui ont été retrouvés surtout à Tipasa et à Cherchel, deux endroits absolument délicieux avant que ne s'y installent des combattantes d'un autre type. Du point de vue militaire, cette province n'était défendue que par des auxiliaires, environ 5 000 hommes, certainement pas plus, car elle était de petite taille et peu exposée aux assauts des barbares, qui ne représentaient pas un grand danger. Pourtant, il y a eu un débat historique entre des historiens qui se sont appelés eux-mêmes post-coloniaux, c'est-à-dire qui ont écrit après 1962, et qui ont imaginé que l'histoire de l'Algérie antique, de l'Afrique antique, était l'histoire de l'Algérie de 1954 à 62. Donc ils ont pensé qu'il y avait partout des combats et une révolte permanente, que l'Afrique était à feu et à sang. À l'heure actuelle, il y a, donc si ces post-coloniaux, ces historiens post-coloniaux existent toujours, il y a une nouvelle génération qui est en quelque sorte post-coloniale, qui essaie d'apaiser les choses. Alors, ce qui m'étonne, c'est que ni dans l'une ni dans l'autre de ces écoles, l'armement n'a jamais été vraiment étudié. Or, il donne des renseignements indirects et précieux sur les ennemis des Romains, c'est-à-dire les combattants maures. Comme il est normal, ce dossier comprend des cavaliers et des fantassins. Les premiers, là encore comme c'est normal, sont surreprésentés par rapport aux seconds parce que leur salaire leur donnait plus de moyens financiers pour leur sépulture. Je passe sous silence les marins, pour les raisons dites plus haut. Dans cette armée, la cavalerie légère était très largement majoritaire. Alors, nous passons au document suivant, s'il vous plaît. Alors, nous avons ici un Syrien qui était originaire d'une région bien connue à l'heure actuelle, la plaine de la Bekaa, qui s'appelait Liturée dans l'Antiquité. Vous voyez donc que c'est un cavalier, qu'il a une simple. Il est monté non pas sur une selle, mais sur une simple couverture. Et alors que son cheval est en mouvement, il tient à la main un arc, mais un arc très simple, qui est beaucoup moins avancé, beaucoup moins moderne que les arcs de la préhistoire, pour combattre des gens qui se déplacent. Les lanciers étaient plus nombreux que les archers. Ulpius Tertius, document suivant, s'il vous plaît. Voilà, nous avons deux stèles tout à fait analogues. L'une qui mentionne un soldat de l'aile des Contarii. Alors, Contarii, on a pensé autrefois que c'était un peuple, mais en réalité, ce n'est pas un peuple. Ce sont des soldats qui manient le contus. Alors, le contus, c'est cette grosse lance qui est assez épaisse, assez longue, qui fait plus de 2 mètres, et qu'il faut tenir à deux mains. Vous voyez que le cavalier n'a pas de selle, lui non plus, mais une couverture sur le cheval, que le cheval a un harnachement complet. Il n'a pas de cuirasse, il n'a pas de bouclier, il n'a pas de casque, il n'a pas d'épée. L'épée se portait normalement au côté droit, alors à moins qu'il ait voulu la porter au côté gauche. Il a seulement cette lance. Le document suivant, s'il vous plaît. Là encore, nous avons, c'est à peu près la même stèle, mais ce n'est pas la même stèle. C'est un soldat qui servait dans une aile dite une aile de Caninéphate. Les Caninéphates, c'est une troupe qui se trouvait, c'est un peuple qui se trouvait au nord de la Gaule, entre le vieux Rhin et la Meuse. C'était donc des Germains qui servaient l'armée romaine. On ne possède qu'une seule mention de cavalerie lourde. Il y avait une aile de Parthes dans cette région, c'est-à-dire 300-400 soldats, pas plus, qui eux, alors là, disposaient d'un équipement complet, casque, cuirasse, et alors une cuirasse qui descendait aux genoux, et en principe, mais on n'a pas de documents en Algérie, mais en principe, l'Iranien, le cavalier iranien, allait sur un cheval qui, lui aussi, était entièrement protégé par une cuirasse. Alors, évidemment, ça nécessitait le recours à des animaux extrêmement solides, qu'il était très difficile de trouver. Les Iraniens les élevaient dans une petite plaine, dont le nom m'échappe actuellement, qui fournissait la cavalerie en chevaux très lourds. Alors, ces cavaliers avaient une tactique très particulière, c'est-à-dire qu'ils se mettaient en ligne, ils chargeaient tous ensemble, et puis quand ils arrivaient sur la première ligne, même de légionnaires, malgré leur équipement de fantassins lourds, la première ligne de légionnaires volait en éclats, elle était fichue en l'air. Seulement, le problème est que ensuite, il fallait faire demi-tour, reprendre de l'élan pour charger. Alors là, la deuxième ligne de légionnaires n'attendait pas que ça se produise. Ils leur couraient après, ils faisaient tomber les cavaliers et ils les égorgeaient proprement. Alors nous avons, je passe un petit peu rapidement quand même, pour arriver à un texte plus intéressant. Voilà, un cavalier qui a sa lance et vraisemblablement il est en train de tuer un bonhomme qui est à terre et il a un bouclier ovale qui est assez particulier. Suivant, s'il vous plaît. Là, nous avons un groupe de trois hommes à terre. Alors, et c'est le bas d'une stèle funéraire, Hic situs est, Eredes posuerunt, c'est-à-dire ici J, le nom était au-dessus, et ce sont ses héritiers qui ont fait faire le monument. Alors, est-ce que c'est le même type de stèle du cavalier qui tue un ennemi à terre? Je ne sais pas, parce que d'habitude, il n'y a qu'un seul bonhomme. Suivant, s'il vous plaît. Voilà, alors cette stèle a été trouvée très récemment et publiée par Jean-Pierre Laporte, avec qui je ne suis pas en accord tout à fait. Elle a été trouvée dans un endroit qui s'appelle Igilumsed, au-dessus d'Akbou. Je pense que peu de gens connaissent cet endroit. Igilumsed, c'est au-dessus d'Akbou, c'est dans la vallée de la Soumam, fleuve qui coule entre le Djurjura et les Babors en Kabylie. Ce document était intéressant au plus haut point. La stèle est gravée, vous avez quatre niveaux. En haut, vous avez à droite un aigle et une femme qui est allongée. Je vous prie de croire que c'est une femme, puisque Jean-Pierre Laporte l'a vue. Il a donné une photo, mais la photo n'est pas bonne, elle n'est pas reproductible. Alors cet aigle, c'est Rome, et la femme qui est allongée sur le sol, c'est la figuration de la province de Maurétanie césarienne. Donc Rome protège la province. Tout en bas, vous avez le bonhomme en question, qui est allongé sur un lit de repas, un lit de banquet. Il y a à votre gauche un petit garçon qui lui apporte des plats, et à droite, une dame qui est son épouse. À côté de l'épouse, vous avez une petite table à trois pieds qui est caractéristique des banquets romains. Donc, il pense que c'est un patriote, il pense que Rome fait le bonheur de la Maurétanie césarienne, contrairement à ce que pensent les historiens postcoloniaux, et il pense que son bonheur dans l'Antiquité, ce sera de banqueter sans arrêt. Nous avons une inscription au niveau 3 avec le nom Lesgig. Alors c'est là où je ne suis pas d'accord avec Jean-Pierre Laporte. Lui, il dit que c'est un nom africain, L-E-S-C-I-G. DMS, c'est une épitaphe consacrée au dieu Man. Ensuite, vous avez le mot Lesgig, ça veut dire que c'est son nom. Et donc Jean-Pierre Laporte dit que c'est un nom africain. Malheureusement, il n'a trouvé aucun document qui le donne. Et j'ai un ami qui est philologue, et j'ai le plus grand respect pour les philologues, ne l'étant pas moi-même, qui m'a dit « mais c'est un nom gaulois, c'est Esquigius ». Et effectivement, Esquigius est un nom qui est très répandu entre Nîmes et les Alpes. Et la Gaule avait fourni les trois quarts de la cavalerie romaine sous le Haut Empire, le dernier quart venant de la péninsule ibérique. Alors donc, il y a ce nom. Puis, à la ligne 2, il y a le mot « militis » à droite, qui veut dire qu'il a été soldat, et le chiffre 75 indiquant qu'il est mort à l'âge de 75 ans, à peu près. Alors ce qui est le plus intéressant, c'est la représentation du bonhomme au deuxième niveau. Alors vous voyez qu'il a la main droite levée et qu'il est pratiquement nu. Il ne porte qu'un petit manteau, pas de casque, pas de cuirasse, il n'a pas de culotte, pas de pantalon, rien. Et le cheval est un harnachement complètement aberrant. Avec ce type de harnachement, vous ne pouvez jamais, on ne peut pas faire avancer un cheval. Donc, il faut penser que le harnachement avait été peint sur cette stèle et que le bonhomme tenait à la main une arme, peut-être une épée, mais il est assez rare qu'un soldat soit représenté comme cela, l'épée dressée vers le haut, plus probablement un javelot. Alors que faisait-il à Igilumsed, qui est vraiment en pleine montagne, c'est un endroit totalement désolé. Alors Jean-Pierre Laporte pense que c'est un vétéran qui était revenu, qui avait été recruté chez les barbares de la montagne, qui était revenu s'installer chez les barbares de la montagne. Des études récentes montrent que les vétérans préféraient rester en ville et rester près du camp où ils avaient passé les 30 ans de service militaire qui étaient obligatoires. Et donc, je propose comme autre hypothèse alternative à celle de Jean-Pierre Laporte que le soldat avait été en garnison dans cet endroit pour surveiller les montagnards qui étaient les plus dangereux parmi les ennemis des Romains. La suite, s'il vous plaît, le document suivant. Il me reste 3 minutes encore. Bon, vous avez ici le bas d'une stèle avec un cavalier qui a un harnachement. On voit une partie du harnachement et on voit la couverture sur laquelle il est assis. Alors, le petit machin que vous voyez à droite de sa jambe a été étudié par Madame Nassera Ben Seddik, qui est une dame algérienne tout à fait charmante, et elle pense que c'est un morceau de bouclier. Je me demande, moi, pour ma part, si ce n'est pas un morceau de... une épée, plus exactement, qu'il aurait au côté droit, l'épée se portant toujours à droite, ou le plus souvent à droite, dans l'armée romaine. Document suivant, s'il vous plaît. Voilà, vous avez donc un cavalier qui tient une lance très courte, un javelot très court, qu'il se prépare à lancer. Document suivant, s'il vous plaît. Et nous passons maintenant au fantassin. Alors, nous avons un fantassin auxiliaire, comme les autres, évidemment, qui porte un glaive au côté gauche. Alors, la photo n'est pas très nette, mais c'est malheureusement très difficile, hein, c'est du marbre. Il porte un glaive au côté gauche et il a la main gauche appuyée sur un bouclier ovale. Document suivant. Voilà, nous avons aussi un autre auxiliaire qui était fantassin également, dans la 6e cohorte mixte de Dalmates. Et vous voyez qu'il est armé d'un glaive au côté droit et qu'il tient à la main deux lances. À la main gauche, il tient deux lances appuyées sur son épaule gauche. Et à la droite, il tient un bâton. Ce bâton a été étudié par un ami américain qui s'appelle Michael Speidel, qui était le neveu du général connu pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui avait commencé sa carrière d'enseignant au Canada, puis qui m'a dit qu'il trouvait qu'il faisait un peu froid, et il l'a fini à Hawaï, où il y a une université, et où il est retraité maintenant, et il y est resté. Et alors, il a bien étudié ce document, et il a montré que c'était ce qu'on appelle en latin un fustis, c'est-à-dire un bâton. Et ce bâton, c'est l'instrument, c'est l'équivalent de la matraque des policiers que vous voyez dans les arrondissements parisiens. La dernière photo, voilà. Alors là, ce soldat, lui aussi, est un auxiliaire et il ne porte que le fustis, que le bâton, pour maintenir l'ordre en ville. Donc, ce tableau montre que les autorités militaires romaines, à tort ou à raison, attribuaient à leurs ennemis potentiels des morts, et pas tous les morts, 3 caractéristiques. Les morts étaient peu nombreux quand il fallait aller au combat, ils étaient légèrement équipés et ils étaient mobiles. Conclusion. S'il est légitime de s'interroger, quand on fait de l'histoire économique, sur la façon dont le paysan et l'artisan travaillaient, il n'est pas illégitime, quand on étudie l'histoire militaire, de voir comment un soldat exerçait son métier, c'est-à-dire comment il tuait. Dans le cas de l'armée romaine, cette enquête permet de mieux comprendre les succès de l'impérialisme qu'elle propageait, la victoire était assurée par l'infanterie lourde des légions, par le couple Gladius-Pilum, surtout par le Gladius et secondairement par le Pilum. Les soldats avaient appris une escrime très efficace, fort différente de celle qui est pratiquée par les sportifs actuels. Les auxiliaires à pied et à cheval leur apportaient un supplément d'efficacité avec d'autres armes. Les Romains ont également excellé dans l'artillerie, la marine et la polyorcétique. Ils ont ensuite décliné, leur empire a disparu. Toutes ces questions méritent un examen qu'il ne m'était pas possible de faire ici. »